VOA Afrique, les infos. À Washington, Nathalie Barge.
Bonsoir. Au sommaire de cette édition du 31 janvier 2017, clôture du sommet de l'Union africaine, Mohamed VI qualifie de décision historique le retour du Maroc au sein de l'organisation. La justice congolaise libère 53 personnes, dont 10 mineurs, partisans d'un défunt chef coutumier à Kananga. La Cour suprême mauritanienne a renvoyé le dossier du blogueur condamné à mort devant une nouvelle cour d'appel. Une fillette de 10 ans a été tuée lundi dans une tentative d'attentat suicide au Nigeria. Décret anti-immigration. Confronté à une fronde au sein de l'appareil d'État, le président américain renvoie la ministre de la Justice par intérim. Et la CAN 2017 au Gabon, J-1 de la demi-finale Burkina Faso-Égypte. Mais avant tout, le journal. Clôture du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en présence de Mohamed VI au lendemain de la réintégration du Maroc au sein du bloc continental. Les dirigeants africains ont élu le nouvel exécutif de l'organisation, Morgane Guiriec.
À la tête de ce nouvel exécutif, on retrouve le ministre tchadien des Affaires étrangères, Moussa Faki Ahmad. Le chef d'État tchadien Idriss Déby Itno a quant à lui cédé la place de la présidence tournante à Alpha Condé. Le chef d'État guinéen a appelé le continent à marquer sa solidarité avec la Somalie, la Libye et le Soudan, visés par le décret controversé du président américain Donald Trump. Alpha Condé a également rappelé la revendication africaine pour une réforme de la composition du Conseil de sécurité des Nations Unies afin que l'Afrique dispose d'un poste de membre permanent. Le nouveau président en exercice de l'Union africaine a également édicté les nouvelles règles de conduite, à commencer par la ponctualité. Comment veut-on expliquer que quand nous avons des réunions avec des pays extérieurs, nous sommes à l'heure, que ce soit en Chine, au Japon et en Inde? Et pourquoi ne serions-nous pas à l'heure à nos réunions? S'est-il insurgé?
La Cour suprême mauritanienne a renvoyé le dossier du blogueur Mohamed Ould Kétir devant une nouvelle cour d'appel différente de celle qui l'a condamné à mort. Le journaliste indépendant a été reconnu coupable d'apostasie. Maître Brahim Ould Ebeti à Nouakchott.
La Cour suprême a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Ouagadougou et a renvoyé le dossier devant une autre cour d'appel autrement composée. Ça signifie que l'affaire va être réjugée par la cour d'appel de Ouagadougou, autrement composée, au motif que la Cour suprême a considéré qu'il y a eu des entorses à la bonne application de la loi.
Maître Brahim Ould Ebeti est avocat à Nouakchott. À Kananga, dans le centre de la RDC, la justice a libéré 53 personnes arrêtées dans des opérations des forces de l'ordre contre des partisans de Kamuina Nsapu, un chef coutumier défunt. Les 43 adultes et 10 mineurs détenus depuis 2 mois ont été relâchés contre la signature d'un acte d'engagement dans lequel ils promettent de ne plus se réengager dans un mouvement insurrectionnel. Les adolescents ont été confiés à l'UNICEF et admis dans un centre de réinsertion. Un officier congolais et 2 pilotes russes ont été retrouvés morts après des crashs d'hélicoptères dans le Nord Kivu, en RDC. 2 hélicoptères de l'armée se sont écrasés vendredi dans une région montagneuse à la suite du mauvais temps, a déclaré ce mardi le général Léon Mouchalet, commandant des opérations dans la région, lors d'une conférence de presse à Goma. En Côte d'Ivoire, le procès de 10 personnes accusées d'enlèvement et d'assassinat de 4 hommes en 2011 a été reporté au 21 février, peu après son ouverture à Abidjan. Tatiana Mosso.
Le juge Mourlaï Sisseko a évoqué des difficultés sérieuses et l'absence de 5 accusés sur 10. Le procès avait débuté avec plus de 3 heures de retard au palais de justice de Yopougon, un quartier d'Abidjan. Le directeur de l'hôtel Novotel d'Abidjan, Stéphane Franz Diripel, Yves Lamblin, directeur général de Sifka, plus grand groupe agro-industriel ivoirien, son assistant béninois Raoul Adeossi et le malaisien Chelian Pandian, directeur général d'une filiale de Sifka, avaient été enlevés par un commando militaire le 4 avril 2011 pendant les combats d'Abidjan. Ils avaient été torturés et tués selon le nouveau gouvernement. Selon l'acte d'accusation, 5 des 10 accusés, dont le général Bruno Dogbeblé, qui commandait la garde républicaine, sont poursuivis pour séquestration et assassinat, les autres pour enlèvement et ou disparition de cadavres. Un enquêteur indépendant a dit à l'AFP sous couvert d'anonymat que les 4 hommes ont été victimes d'un enchaînement malheureux de circonstances. Leur mort n'aurait pas été préméditée. Dogbeblé aurait été dépassé par les événements et sous la pression des patriotes alors que la bataille pour le pouvoir tournait en faveur du camp Ouattara.
Au Nigeria, une fillette d'environ 10 ans a été tuée hier dans une tentative d'attentat suicide à Bangui, dans l'état de Borno, quand sa ceinture a explosé à l'approche des forces de sécurité, selon un milicien civil. Un autre attentat a fait 2 morts ce mardi dans une mosquée à Dalori, près de Maïdougouri. Un fidèle en charge de la surveillance des lieux a attrapé le kamikaze et les explosifs se sont déclenchés.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump a limogé la ministre par intérim de la Justice qui avait refusé d'appliquer son décret restrictif sur l'immigration. Dilly Dico nous en dit plus.
Le président Trump a relevé Sally Yates de ses fonctions et a nommé Dana Bowent pour assurer l'intérim à la tête du ministère de la Justice, en attendant la confirmation par le Sénat de la nomination du sénateur Jeff Sessions. Monsieur Bowent, juge fédéral, a immédiatement annulé les instructions de Madame Yates, qui avait ordonné au juge de ne pas appliquer le décret de Monsieur Trump. Vendredi, le président américain a interdit temporairement l'entrée aux États-Unis des ressortissants de 7 pays à majorité musulmane et de tous les réfugiés. Des centaines de manifestants se sont rassemblés hier devant la Cour suprême pour scander des slogans tels que « pas de haine, pas de peur, les réfugiés sont les bienvenus ». Et M. Trump doit d'ailleurs annoncer ce soir son choix pour le 9e juge à la Cour suprême.
Les pourparlers de paix sur la Syrie sous l'égide de l'ONU ont été reportés au 20 février, a annoncé au Conseil de sécurité l'envoyé spécial sur la Syrie. Lors d'une réunion à huis clos, Staffan de Mistura a expliqué que le report donnerait plus de temps à l'opposition syrienne et permettrait aux pourparlers d'être aussi ouverts que possible. L'Iran appelle les États-Unis à ne pas chercher à créer de nouvelles tensions à propos de son programme de missiles balistiques. Washington et Israël ont accusé l'Iran d'avoir effectué un nouveau tir de missile à moyenne portée. Téhéran affirme que la nation iranienne n'attend pas l'autorisation des autres parties pour se défendre. Les missiles iraniens ne sont pas conçus pour porter des têtes nucléaires, a insisté le chef de la diplomatie. Un chef local d'Al-Qaïda au Yémen a été tué dans un raid des forces antiterroristes à Houta, dans la province de Lajj. Selon la police, le raid a été mené dans le cadre d'une vaste opération des forces de sécurité yéménites, soutenue par la coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite contre Al-Qaïda et le groupe État islamique. Le Parlement britannique a ouvert les débats sur le projet de loi visant à autoriser le gouvernement à lancer les négociations de sortie de l'Union européenne. Le texte devrait, sauf surprise, être adopté. Il s'agit simplement d'appliquer une décision déjà prise, a déclaré le ministre chargé du Brexit, David Davis. L'épouse du candidat de la droite à la présidentielle en France, François Fillon, soupçonné d'emploi fictif, a touché plus de 900 000 euros comme assistante parlementaire et collaboratrice d'une revue littéraire, affirme le Canard enchaîné. Par ailleurs, le candidat a rémunéré 2 de ses enfants comme assistant parlementaire à hauteur de 84 000 euros, selon les informations publiées par le journal, le jour où les enquêteurs ont saisi des documents à l'Assemblée nationale. 5 personnes sont mortes d'asphyxie et 10 se trouvaient dans un état grave au Bénin, où une église de réveil a encouragé ses fidèles à prier dans des chambres confinées avec de l'encens, indique le ministère de la Santé. L'église de Jésus-Christ de Banamé, qui revendique des milliers de fidèles, a plusieurs scandales à son actif dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Et les députés en Tunisie ont voté en faveur de la création d'une commission d'enquête sur les filières de recrutement de Tunisiens au profit d'organisations djihadistes. Un débat agite actuellement le pays sur la perspective du retour de ses ressortissants ayant déclenché des manifestations à Tunis. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Place au journal de la CAN avec Nicolas Pineau.
Bonsoir à tous. J-1 avant la première demi-finale à Libreville entre le Burkina Faso et l'Égypte. Un duel a priori déséquilibré entre les états finalistes de l'édition 2013 et des pharaons septuples vainqueurs de la CAN. Mais les Burkinabés y croient et continuent de se préparer sereinement à Libreville. On retrouve sur place en direct l'envoyé spécial de VOA Afrique au Gabon, Timothée Donangma. Et Timothée, bonsoir.
Bonsoir Nico.
Alors Timothée, évidemment, ce soir, place aux conférences de presse d'avant-match. Paolo Duarte a fait face au journaliste, le sélectionneur du Burkina Faso.
Oui, Nico, Paolo Duarte est venu en compagnie du défenseur Bakary Koné. Le coach burkinabé a expliqué que l'Égypte est une équipe qui défend bien et qui attaque bien avec 4 ou 5 joueurs à la fois. À la question de savoir ce qu'il compte faire contre le phénomène égyptien Mohamed Salah, Duarte a dit que la question doit être adressée plutôt à son homologue égyptien Hector Cooper pour lui demander ce qu'il compte faire contre Bertrand Traoré. Donc Duarte se dit confiant, il dit qu'il a bien travaillé avec son équipe et qu'il entend aller jusqu'au bout. Même optimisme du côté de Bakary Koné, qui lui a dit qu'il était adolescent encore lorsqu'il a suivi à la télé avec ses parents l'élimination à Bobo-Dioulasso du Burkina Faso par l'Égypte en demi-finale de la CAN 98. Il s'est rappelé que cela avait causé une grande douleur à l'époque et que c'est aujourd'hui une motivation supplémentaire à cette CAN. Ensuite, c'est le coach Hector Cooper et le gardien El Hadary qui sont venus pour la conférence égyptienne. Hector Cooper a dit qu'avant d'aller en Égypte, il était au courant du prestigieux passé des pharaons et de leurs 7 titres continentaux. Il a dit cependant que l'histoire reste l'histoire et que ce qui est important aujourd'hui, c'est la CAN 2017 et qu'il faut se donner les moyens de la remporter. Il a dit qu'il a une équipe solide, talentueuse et qui est prêt à aller jusqu'au bout. De son côté, le gardien El Hadary lui a dit qu'il raconte souvent aux jeunes joueurs de l'équipe égyptienne les CAN passées dont il a remporté le trophée avec les pharaons. Il a dit qu'il leur donne des conseils sur la manière, sur la psychologie gagnante pour de telles compétitions. Il dit qu'il soutient ces jeunes-là pour que l'Égypte puisse remporter son 8e titre.
Merci beaucoup. Timothée Donangma est l'envoyé spécial de VOA Afrique sur cette CAN au Gabon. Et jeudi, place à la demi-finale entre le Cameroun et le Ghana. Léger avantage aux Black Stars qui joueront leur 6e demi-finale d'affilée, tandis que les Lions indomptables n'avaient pas atteint ce niveau depuis 2008. Retour sur ces 2 demi-finales avec Jules Valentin-Goué dans son coup de sifflet.
Bonsoir. Le ciel s'éclaircit progressivement dans cette CAN gabonaise 2017 qui a finalement dévoilé son carré d'as avec une représentation équilibrée comme l'a été tout le tournoi. L'Afrique du Nord a un représentant sur 4, l'Afrique centrale 1/3 et l'Afrique de l'Ouest avec ses 2 représentants sur 7 au départ voit sa suprématie de ces dernières années proportionnellement atténuée. Les affiches ultimes avec un Burkina Faso Égypte à Libreville et un Cameroun-Ghana à Franceville dévoilent en fait la suprématie des groupes A et D, là où les supposés poules de la mort ont accouché d'une souris. Le suspense qui a accompagné la compétition reste présent à la veille des oppositions peu attendues des demi-finales. Tout le monde avait oublié que le Burkina Faso, finaliste brillant de l'édition 2013, n'était pas là par hasard puisqu'il reconduit intégralement un groupe arrivé à maturité, ce qui lui donne paradoxalement un statut de favori face à une formation égyptienne solide, comme à l'accoutumée, mais quand même en cours de reconstruction. Le Cameroun-Ghana de Franceville voit aussi les Black Stars, vice-champions d'Afrique en 2015, revenir avec le même effectif revanchard pour un succès qui leur avait échappé par malchance à la dernière édition. Mais ils doivent se souvenir que le Cameroun qu'ils ont pu affronter est tout de même la seule équipe qu'ils n'ont jamais battue à la CAN, concédant même une défaite pour un nul. Vous l'avez compris, ne pariez pas. Le suspense initial s'entête à perdurer. Soyez patients. À demain.
Voilà, et on rappelle les demi-finales mercredi Burkina Faso, Égypte, et jeudi le Ghana contre le Cameroun. Ainsi s'achève ce journal de la CAN. Prochain point sur le tournoi demain matin sur notre antenne. Entre-temps, rendez-vous sur notre page Facebook et notre site voafrique.com.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
Au Tchad, la croissance a chuté de 1,1% en 2016. Membre de l'OPEP depuis 2003, l'économie du pays dépend de l'or noir dont les prix ont baissé. À cela s'est ajoutée la pluviométrie insuffisante et la dégradation sécuritaire qui ont conduit N'Djamena dans une récession. Par contre, la Tunisie prévoit une croissance économique de 2,5% en 2017, malgré des troubles politiques et des protestations sociales qui déstabilisent son économie. Tunis envisage de lever 2 milliards d'euros sur les marchés internationaux. D'autres pays tirent également profit du retour en force de l'Afrique sur le marché international. Les capitaux avoisinent 6,58 milliards de dollars. L'Égypte est en tête avec 4 milliards d'investissements. Le groupe sud-africain Sibanye-Gold a mobilisé 1,35 milliard. La BAD, 1,07 milliard, tandis que African Finance Corporation a emprunté 150 millions. Le Nigeria va contracter 1 milliard pendant que le Kenya est intéressé par un eurobond de 800 millions de dollars.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. Dans le nord du Burkina Faso, des enseignants affirment avoir reçu des menaces d'hommes armés leur intimant l'ordre d'enseigner désormais l'arabe et le Coran. Plusieurs enseignants ont fui la zone. Bagassikoura a joint Ilyasa Sawadogo, instituteur à l'école Petega dans le cercle de Nassoubou, qui explique pourquoi il a abandonné son poste.
Il y avait deux hommes armés à moto qui sont arrivés, disant de fermer l'école. Ou, si on veut rester à l'école, on enseigne l'arabe ou bien on quitte.
Et comment vous avez réagi?
Bon, devant une arme que tu n'as jamais vue, la réaction est claire, on a obéi. Les gars étaient en tenue de nos militaires.
Et c'est les hommes que vous connaissez?
Non, ils étaient gangoulés, donc... L'autre était à visage découvert, mais je le connais.
Et en ce moment, vous continuez à enseigner ou est-ce que les écoles sont fermées?
Bon, des gens qui ont dit de ne pas rester. Ils revenaient nous trouver là-bas. Et ça, c'est une prévention. Ils viennent de nous prévenir. Et ils reviennent nous trouver, donc il n'y a plus de mesures, c'est feu. Dans ça, moi, je ne peux pas dire qu'il y a quelqu'un à l'école.
Alors...
Moi, précisément, je ne suis pas à l'école.
Oui, vous n'êtes pas à l'école. Est-ce que c'est la seule école qui a été menacée?
Ce n'est pas la seule école d'après les paroles, mais ce que moi j'ai vécu, que je peux parler dans les autres écoles. En tout cas, j'ai eu les informations qu'il y a d'autres écoles aussi qui ont été menacées.
Donc en ce moment, les écoles sont fermées dans le cercle de Nassoubou.
Je ne suis pas actuellement dans la CEP.
Oui.
Donc je ne peux pas dire que toutes les écoles sont fermées.
Oui.
Je ne pense pas repartir.
Vous n'êtes pas là-bas à cause de la situation sécuritaire?
Voilà, réellement, parce que j'ai reçu des menaces, donc je ne peux pas... Des gens qui disent que si je passe l'information, là où je pars, ils vont me retrouver, donc je ne peux pas... Même dans la zone, je pense que je ne peux pas, parce que c'est difficile de vivre, de voir ça... Passe à toi et puis tu vas dire que tu vas repartir.
Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres confrères qui sont dans votre situation, qui ont aussi abandonné leur poste?
Non, à l'école, je suis avec des collègues. Donc, en tout cas, je pense qu'il y a quelqu'un toujours à l'école. En tout cas, on m'a trouvé à l'école, mais les autres étaient... Bon, ils ont eu des informations avec moi, donc personne n'est là-bas en tout cas.
Et où sont les forces de sécurité alors dans la zone?
C'est difficile de répondre à cette question.
Vous ne les voyez pas alors?
En tout cas, si je dis que je les ai vus ce jour, je ne les ai pas vus ce jour. Je vais bouger là-bas sans les voir. En tout cas.
Et qu'est-ce qu'il faudra pour que vous vous retourniez là-bas?
Retourner dans la même école?
Oui, dans la zone pour travailler, puisque vous êtes fonctionnaire.
Oui, exactement, je suis fonctionnaire, mais la vie avant tout. Pour retourner dans la même école, il faut de la sécurité. Maintenant, ils sont venus à l'école. Sinon, dans les villages, ils venaient tirer sur les gens. Il y a des gens un à un dans le village, qui est-ce qu'ils me connaissent? Donc, je ne peux pas dire que je vais repartir là-bas comme ça. Même mes affaires sont là-bas, je ne pense pas aller les ramasser moi-même.
C'était Ilyasa Sawadogo, qui est enseignant au Burkina Faso.
Dans Washington Forum, ce jeudi, le grand retour du Maroc dans l'Union africaine. 39 chefs d'État sur 54 se sont prononcés en faveur de ce retour. Qu'en pensez-vous? Le Tchadien Moussa Faki Mahamat à la tête de la Commission de l'Union africaine. Quel défi pour le nouvel homme fort de l'UA? Le décret sur l'immigration de Donald Trump, quelles conséquences pour les pays du continent? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de voaafrique.com et rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel avec Tatiana Mosso et ses invités.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies a prorogé d'un an l'embargo sur les armes à destination de Centrafrique. Une décision prise le 28 janvier dernier, alors que le pays espérait la levée de cette sanction. Notre correspondant Freeman Sipila a tendu son micro à des Centrafricains pour recueillir leur réaction.
Les Centrafricains qui espéraient voir la levée de cet embargo ont été surpris d'apprendre sa prolongation.
C'est une chose inacceptable.
On ne peut pas être dépendant de cet pays. Nous devons avoir l'initiative d'être autonome. Des reports.
Je crois que ce n'est pas normal, puisque ce n'est pas pour la première fois.
Si maintenant on va de report en report, quand est-ce que RCA aura sa souveraineté en matière de sécurité?
Nous sommes très conscients que c'est nous-mêmes qui dépendant de notre sécurité et nous voulions à ce que les forces armées centrafricaines assurent la sécurité des Centrafricains.
La Ligue centrafricaine des droits de l'homme dit ne pas être surprise de cette décision. Pour elle, il ne s'agit pas d'un embargo, mais plutôt d'une punition du peuple centrafricain. L'ancien ministre de la Défense, Joseph Bindoumi, est son président.
Le maintien ou la prolongation de l'embargo ne devrait pas se calculer en termes de formation des militaires. Ou pas, ça devrait se calculer en termes de nombre de personnes qui vont encore mourir. Nous sommes membres des Nations Unies. Nous ne devons pas être là en train d'être punis. L'embargo, aujourd'hui, n'est pas considéré comme une sanction des Nations Unies, mais comme une punition du peuple centrafricain.
À l'Assemblée nationale, les députés ont à plusieurs reprises interpellé les nouvelles autorités sur les démarches menées en faveur de la levée de cette sanction. Jean Bosco Namtoa, député de Bouka 1, se dit déçu.
Moi, je suis totalement déçu parce que un État sans son armée n'est pas un État. Dans nos provinces, il y a l'insécurité qui règne. La population souffre. Alors, cette population a besoin de son armée. Mais dire qu'on a prolongé la levée d'embargo, vraiment, je suis totalement déçu de la situation.
De son côté, le gouvernement se veut optimiste. Le ministre de la Défense, Joseph Yakété, indique que malgré cette prolongation, il existe des alternatives pour réarmer les forces de défense et de sécurité centrafricaines.
C'est un coup dur pour notre pays. En même temps, c'est prévisible parce que l'expérience nous montre que partout là où il y a eu l'embargo sur l'importation des armes, l'embargo ne s'est jamais levé d'un seul coup. Ça a été de façon progressive. Je me satisfais aussi d'un aspect, c'est qu'aujourd'hui, si nous répondons à un certain nombre de critères définis par le comité des sanctions, nous avons la possibilité de nous procurer donc l'armement qu'il faut pour équiper nos soldats qui ont fini leur formation.
En 2014, le Conseil de sécurité de l'ONU a imposé un embargo sur les armes à destination de la République centrafricaine alors que le pays était en proie à des violences intercommunautaires. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
La voix de l'Amérique, Bangui 101.7 FM.
À Libreville, l'abondance des produits maritimes surgelés n'a pas entamé l'appétit des consommateurs pour le poisson frais. Un appétit qui fait vivre de nombreux pêcheurs artisanaux. Timothée Donangmaï est allé à la rencontre d'un groupe de pêcheurs de la Sablière, un quartier périphérique de la capitale gabonaise.
Ils sont gabonais, béninois, nigériens et autres ouest-africains et pêchent à la Seine, un long filet que l'on déploie dans un grand arc, puis qu'on referme progressivement pour attraper le poisson. Leur lourde pirogue sortie de l'eau, c'est le moment tant attendu, l'ouverture de la poche de la Seine pour examiner la prise. Le pêcheur Toul Niavor.
Il y a le millet, il y a le bas, le capitaine, et le disque, la bécune, toutes sortes de poissons.
Qu'est-ce qui rapporte le plus en termes de prix?
Le petit capitaine, avec le millet.
C'est une prise moyenne pour la quinzaine de membres du groupe. Lorsque la pêche est bonne, ils peuvent avoir trois fois plus de poissons, assure-t-il. Steve Mbembo, âgé de 39 ans, est un musicien gabonais qui s'adonne aussi à la pêche.
En ce moment, si nous n'avons pas beaucoup de kilos, c'est au moins 250 kilos. 250 kilos de poisson, hormis ce que les femmes et les enfants prennent pour aller manger.
Les pêcheurs trient le gros poisson qu'ils placent dans de grandes bassines pour la vente. Puis les femmes et les enfants qui les ont aidés à tirer le filet et sortir la pirogue de l'eau se précipitent sur le menu fretin. Tony Avor.
Ah non, vous avez dit que ça c'est la phase de quoi là?
La tabac. C'est-à-dire, chacun essaye de voir ce qu'il peut prendre pour lui-même. Donc les enlever, ce qui nous compte. Mais là le reste, pour les femmes et les enfants.
Certains prennent leur part dans des seaux, d'autres la déversent simplement par terre en attendant de trouver un récipient. Les mères de famille, parmi eux, assurent qu'elles parviennent à nourrir leur maisonnée en venant chaque jour donner un coup de main aux pêcheurs. À côté, les pêcheurs ont déjà trouvé leur première cliente. C'est Roselyne Asengo, une habitante de Libreville qui vient régulièrement s'approvisionner à la sablière.
Là, j'ai acheté le capitaine et les barres et la sole, le disque.
Combien de kilos en tout?
Ça fait combien de kilos, Michel?
8, 13 kilos.
Ça fait 13 kilos en tout. Ça fait 32 000.
C'est un bon prix?
Oui, c'est un très bon prix par rapport au marché. Le marché, c'est 4 000 au kilo ou 3 500.
Les pêcheurs artisanaux connaissent quelle espèce ils peuvent attraper, souligne le musicien pêcheur Steve Mbembo.
Il y a des restrictions parce que, comme les tortues, par exemple, des mers, nous, aujourd'hui, avons des interdictions de les pêcher. Donc même quand ça arrive dans nos filets, nous les libérons.
Dernière précaution après la pêche, les femmes et les enfants creusent des trous dans le sable pour enterrer tout ce qui n'a pas été récupéré. Question de ne pas polluer la plage. Timothée Dunangmaï, Libreville, VOA Afrique.
Le décret controversé de la nouvelle administration américaine sur l'immigration continue de provoquer des réactions dans le monde. Il interdit temporairement l'entrée aux États-Unis des ressortissants provenant de 7 pays. Le point avec Jacques Aristide.
Né en Somalie et résident dans le Minnesota, le réfugié Farhan Anshour était soulagé lorsque sa femme et ses enfants ont finalement été autorisés à le rejoindre après avoir été détenu dans un aéroport près de Washington D.C. Farhan Anshour.
Enfin, nous sommes tous ici. J'ai maintenant toute ma famille réunie avec moi.
Le décret interdit l'entrée aux États-Unis des citoyens d'Iran, d'Irak, de la Libye, Somalie, du Soudan, de la Syrie et du Yémen pendant 90 jours. Les détenteurs de passeports de ces pays n'étaient pas autorisés à monter à bord à des vols en direction des États-Unis et ceux qui étaient déjà en cours de route étaient temporairement détenus à leur arrivée. La Maison-Blanche s'est excusée pour ce qu'elle a décrit comme un inconvénient mineur. Mais selon une ancienne candidate présidentielle somalienne, cette mesure a des effets multiples. Écoutons Fadou Modaïb.
Je devais faire partie d'un panel de discussion à la Harvard Business School ainsi qu'à la Harvard Kennedy School. Mais je ne pourrais pas y aller en raison de cette interdiction de voyager.
Fadou Modaïb se dit plus préoccupé pour les réfugiés somaliens au Kenya qui ont eu le feu vert pour se réinstaller aux États-Unis.
Et maintenant, on leur arrache cette chance juste parce qu'ils se trouvent être des musulmans ou parce qu'ils sont originaires d'un pays qu'ils n'ont pas choisi.
Une organisation de défense des droits des musulmans aux États-Unis affirme qu'elle contestera le décret devant les tribunaux. Léna Masri, directrice nationale de la section des litiges de CARE.
Cette action légale concerne la Constitution et elle a été déposée au nom de plus de 20 musulmans constitués à la fois d'Américains et de non-Américains qui résident légalement aux États-Unis.
Une actrice suédoise d'origine iranienne se dit inquiète car elle croit que la mesure pourrait l'empêcher de venir assister à la cérémonie des Oscars le mois prochain. Bahar Pars incarne l'un des rôles principaux dans le film A Man Called Ovi, nommé pour un Oscar. Et une compositrice britannique d'origine iranienne est incertaine quant à sa participation à l'ouverture de son opéra à Pittsburgh en avril. Susan Lolavar.
Cela me fait certainement réfléchir au sujet de mes liens avec l'Amérique.
Pour les critiques, la mesure pourrait entraîner des conséquences beaucoup plus négatives, sans renforcer la sécurité des États-Unis.
Et voilà, c'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Georges Léonard Sagnot. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Et rendez-vous également sur notre site internet voaafrique.com pour l'actualité en continu. Bonne soirée à tous.